de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président publie un décret présidentiel sur la durabilité des médias avant la journée de la presse. L'ambassade d'Indonésie a déclaré qu'aucun citoyen indonésien n'avait été tué lors du tremblement de terre en Turquie. Le salon d'ATF 2023 a été un succès au-delà de la cible. La SIAN dispose d'une plateforme inclusive pour soutenir la stabilité régionale. L'OMS appelle à des mesures pour réduire la flambée des décès par cancer en Afrique. Le ministre coordinateur de l'économie considère la transformation numérique comme clé de l'accélération de l'économie. Le nombre total de visites de touristes étrangers en 2022 augmentera de 250%. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo publiera bientôt un règlement présidentiel ou perpres concernant la durabilité des médias avant la Journée nationale de la presse qui est célébrée le 9 février de chaque année. La présidente du conseil de presse, Nini Rahayu, a déclaré que la déclaration avait été faite par le président lors de la réception des membres du conseil de presse au Palais d'État à Jakarta, lundi 6 janvier. Nini expliquait que le décret présidentiel était un produit juridique qui réglementerait les modèles de coopération et les relations entre les médias et les plateformes mondiales dans l'intérêt d'un écosystème de presse équitable. Selon elle, le président a approuvé la contribution du conseil de presse dans la rédaction du décret présidentiel sur la durabilité des médias, s'est appuyé sur la loi numéro 40-1999 sur la presse. En ce qui concerne la liberté de la presse, le président estime que ce droit a été obtenu, que le média doit désormais être plus responsable. Le président a ajouté que le développement de la technologie de l'intelligence artificielle doit être pris en compte par les médias afin qu'ils puissent être équilibrés avec les plateformes mondiales. L'ambassade d'Indonésie à Ankara a déclaré qu'aucun citoyen indonésien n'avait été tué dans le tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a secoué le sud de Turquie lundi 6 janvier heure locale. Dans un communiqué officiel reçu lundi 6 janvier, l'ambassade d'Indonésie à Ankara a déclaré que des dizaines de victimes avaient été signalées, des centaines de personnes blessées et un certain nombre de bâtiments effondrés et gravement endommagés à la suite des trois tremblements de terre. L'ambassade d'Indonésie à Ankara s'est coordonnée avec les autorités locales de la région et a communiqué avec les membres du groupe de travail sur la protection des citoyens indonésiens et l'Association des étudiants indonésiens, ou PPI, autour de l'emplacement. Jusqu'à ce qu'une déclaration officielle soit reçue à Jakarta, aucun citoyen indonésien n'était décédé. Cependant, trois citoyens indonésiens ont été blessés, en personne à Karaman Maras et deux personnes à Aceh, et ont été transportés à l'hôpital le plus proche. L'ambassade d'Indonésie à Ankara a déclaré qu'il y avait environ 6500 citoyens indonésiens vivant dans toute la Turquie. Parmi ceux-ci, il y avait environ 500 personnes vivant dans la zone de tremblement de terre et 16 environ. Le ministre du Tourisme et de la Communication, Sandiaga Uno, a apprécié la mise en œuvre réussie de l'exposition du Forum du Tourisme de l'ASEAN, ATF 2023, à la fois dans les forums d'entreprise à entreprise, ou B2B, et d'entreprise à client, ou B2C. Dans une déclaration publiée lundi 6 février à Jakarta, Sandiaga Uno a souligné les forums B2C qui ont enregistré le nombre de transactions dépassant l'objectif fixé.
Dan yang paling mengembirakan adalah B2C-nya. Ini jumlah transaksinya, wow.
Et le plus excitant, c'est le B2C. Ce nombre de transactions est très encourageant. De nous, plutôt, l'objectif n'était que de 2 à 3 milliards. Il a éclaté à midi, hier, dimanche, plus de 8,2 milliards de roupies. Quant au forum B2B, selon Sandiaga, le gouvernement vient d'enregistrer un potentiel total de 55 à 60 millions de dollars américains. Sandiaga est optimiste qu'une fois toutes les transactions B2B enregistrées, l'objectif de 100 millions de dollars de transactions sera atteint. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, du ministère des Affaires étrangères, Siddhartho R. Suryodipuro, a déclaré que l'ASEAN fournit une plateforme inclusive et centrale qui peut soutenir la stabilité régionale. Dans un dialogue sur l'ASEAN lundi 6 février à Jakarta, Siddhartho a déclaré que la plateforme inclusive et centrale comprend une diplomatie en couche et par divers canaux. Selon lui, cela devrait être un soutien au maintien de la stabilité dans la région. Siddhartho a déclaré que l'ASEAN est actuellement à la croisée des chemins à la fois en termes de stabilité, de prospérité, d'économie et de croissance. Par conséquent, selon lui, la position de l'Indonésie en tant que président de l'ASEAN 2023 garantira la préparation de l'ASEAN à faire face à des défis plus importants à l'avenir. Il a ajouté qu'au cours de la présidence de l'ASEAN, l'Indonésie s'efforcera d'encourager les perspectives de reprise de la croissance régionale, de la connectivité et de la compétitivité, de renforcer la sécurité alimentaire et financière en garantissant les chaînes d'approvisionnement alimentaire, d'accélérer la transformation d'une économie numérique inclusive et participative, d'améliorer l'infrastructure numérique et combler la fracture numérique et souligner l'importance d'une croissance économique durable. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, affirme que les pays d'Afrique subsaharienne doivent mener des interventions ciblées telles que une surveillance accrue en diagnostic en temps opportun, en traitement et des soins pour réduire la flambée des décès liés au cancer. Cité d'Antara, lundi 6 janvier, l'OMS l'a transmis samedi 4 janvier lors de la Journée mondiale contre le cancer. Dans la déclaration, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Muti, a déclaré qu'en plus d'exacerber la pauvreté et les inégalités, le cancer exerçait également une pression sur l'infrastructure de santé publique du continent. Il a ajouté que 1,1 million de nouveaux cas de cancer et environ 700 000 décès sont enregistrés en Afrique chaque année, fait des gains antérieurs d'allongement de l'espérance de vie du continent a été en vain. Selon l'OMS, les cas de cancer les plus courants chez les adultes en Afrique comprennent le cancer du sein et du col de l'utérus chez les femmes, le cancer de la prostate, colorectal et du foie chez les hommes. Néanmoins, Muti a déclaré que le continent avait pris des mesures importantes dans la lutte contre le cancer, avec 12 pays ayant de solides plans nationaux de lutte contre le cancer et plusieurs autres pays élaborant des directives nationales de traitement pour le cancer infantile. Le ministre indonésien de la coordination de l'économie, Erlangga Hartarto, a déclaré que la transformation numérique était la clé pour accélérer la reprise économique nationale. Lors de l'inauguration de la zone scientifique et technologique de Solo Technopark à Solo, lundi 6 janvier, il a déclaré que l'économie numérique en Indonésie, qui avait été lancée par le président Joko Widodo en 2018, était conforme à la valeur des ventes brutes de l'économie numérique prévue d'un montant de 77 milliards de dollars américains. Alors qu'en 2025, on estime qu'il se rapproche de 130 milliards de dollars américains et qu'en 2030, il pourrait atteindre de 120 à 360 milliards de dollars américains. Il a déclaré que l'accent mis sur la science et la technologie est très important car il s'agit d'une valeur ajoutée pour le ministère de l'Industrie. L'Agence centrale de statistiques, ou BPS, a noté que les visites des étrangers en Indonésie en décembre 2022 ont totalisé 895 000 visites. Au total, les visites de touristes étrangers en Indonésie en 2022 atteindront près de 5,5 millions de visites. À cet égard, le ministre du Tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, lundi 6 février à Jakarta, a révélé que le nombre total d'arrivées de touristes étrangers en Indonésie avait augmenté de 250% par rapport à 2021. Les touristes étrangers les plus visités venaient de Singapour, de Malaisie, d'Australie, de Timor-Leste et d'Inde.
Angka yang tercatat akhirnya hampir mencapai 5,5 juta kunjungan, naik 250.
Le nombre d'arrivées de touristes étrangers en Indonésie que nous avions initialement projeté à 5,2, les chiffres enregistrés ont finalement atteint près de 5,5 millions de visites, en hausse de 250% par rapport à 2021, qui est en tête première Singapour 20,55%, Malaisie 17,98%, l'Australie 11,42%, Timor-Leste 8,4% et Inde 6,61%. Sandiaga Uno a ajouté que l'augmentation des arrivées des touristes étrangers s'est accompagnée d'une augmentation du taux d'occupation des chambres d'hôtel de classe étoilée de près de 57% par rapport à 2021. Selon Sandiaga, la durée moyenne de séjour des clients était d'environ 1,62 jours, ce qui a également augmenté par rapport à l'année précédente. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Thank you.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « Un siècle de Nahdlatul Ulama ». Mardi 7 février 2023 au 16 Rajab 1444 Hijri, Nahdlatul Ulama, ONU, les résidents d'ONU ont célébré le centenaire de la fondation de l'une des organisations islamiques les plus importantes et les plus influentes d'Indonésie. Muhammadiyah, qui était fondée à Yogyakarta, et NU, qui est née à Jombang, Java Oriental, en 1923, a travaillé main dans la main pour construire l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, depuis l'époque coloniale, la guerre d'indépendance, la post-indépendance, jusqu'à Metong. La célébration du centenaire de NU a eu lieu à Sidoarjo et a été suivie par le président Joko Widodo. Il y a quelque chose d'unique dans la célébration NU de cette année, car elle se déroule en 24 heures. Le secrétaire général adjoint du conseil exécutif de Nahdlatul Ulama, PBNU, Najib Azka, a déclaré que le pic de l'événement de cette année s'est déroulé pendant 24 heures à Sidoarjo, dans l'est de Java. Ceci est destiné à accueillir les différents segments de la communauté NU. De plus, cet événement est aussi une stratégie pour réguler le courant massique. En effet, sur la base des données reçues par PBNU, le nombre de participants qui ont enregistré plus d'un million de personnes venues de diverses villes de l'île de Java et de l'extérieur de Java ont fréquenté la ville de Sidoarjo par étapes pour célébrer le centenaire de la fondation de NU. Comme on le sait, Java Oriental est la base principale de NU sur l'île de Java. Le modèle traditionnel, populiste et simple qui caractérise NU est devenu la marque principale de son travail en Indonésie. Ainsi, lors de la tenue de cet événement du centenaire de NU, toutes les parties participent pour faire succès de l'événement. La tolérance religieuse peut également se faire sentir dans cet événement de commémoration NU. Plusieurs églises ont également diffusé l'événement en ouvrant un grand écran dans le parking de l'église pour accueillir les membres de NU qui ne pouvaient pas assister en personne au stade Gelora Delta Sidoarjo. L'église a également ouvert une aire de repos pour la congrégation de NU et ils ont reçu de la nourriture et des boissons, des toilettes et une connexion Wi-Fi gratuite. Pendant ce temps, l'organisation islamique Muhammadiyah a préparé des installations pour la congrégation dans leurs diverses installations éducatives et socio-économiques, telles que trois campus Muhammadiyah à Sidoarjo qui ont mis en place des postes spéciaux avec divers services. NU, avec son modèle traditionnel et pondok pesantren comme base principale, a coloré un autre sens dans la vie de l'État indonésien. La forte influence de NU en politique est marquée par la création de partis politiques soutenus par Kiai à l'ère de la réforme ainsi que par certains de ses cadres qui sont actifs dans d'autres partis qui ont contribué au développement de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Même le quatrième président Abdurrahman Wahid est le petit-fils du fondateur de Nahdlatul Ulama. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Sejuritak bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 7 février 1990. Le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique a renoncé à son monopole sur le pouvoir. L'Union soviétique, l'un des pays le plus grand et le plus puissant du monde, s'est officiellement dissoute le 26 décembre 1991. Cependant, le processus a commémoré le 7 février 1990 lorsque le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique a accepté de renoncer à son monopole de pouvoir à la demande politique du secrétaire général Mikhail Gorbatchev. Cette même année, les 15 républiques membres de l'Union soviétique ont tenu leurs premières élections compétitives, les réformateurs et les nationalistes ethniques remportant de nombreux sièges. Le comité central du Parti communiste a perdu les élections dans 6 républiques. Passons maintenant à l'événement du 7 février 1992. les accords de Maastricht sont signés. Un an après la dissolution de l'Union soviétique, les pays européens voulaient s'unir. Ce désir était réalisé par la signature de l'accord de Maastricht dans la ville de Maastricht, aux Pays-Bas, le 7 février 1992 par 12 pays membres de la communauté européenne. L'accord de Maastricht a conduit à la création de la monnaie euro et a créé les trois piliers de l'Union européenne, à savoir la communauté européenne, la politique étrangère et de sécurité commune et la justice et la patrie. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le plus grand incendie de forêt d'Australie le 7 février 2009. Le plus grand incendie de forêt s'est produit dans l'état de Victoria en Australie le 7 février 2009. L'événement appelé samedi soir est considéré comme la pire catastrophe naturelle de l'histoire australienne car il a fait au moins 173 morts incendiés, 700 maisons et couvert une superficie d'environ 3000 km². C'est aujourd'hui, c'était l'histoire de Zourli pour ce soir.
Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak bareng sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku dan tunggulah aku di sana memecahkan. Suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée La ministre indonésienne des Affaires étrangères met l'accent sur la présidence de l'Indonésie au sein de l'ASEAN lors du 32e ACC. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, l'Indonésie a tenu une série de réunions. La retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à MM, au secrétariat de l'ASEAN, au Jakarta, du 2 au 4 février 2023. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a dirigé la retraite de l'AMM, qui s'est tenue le 4 février 2023. Cette réunion de retraite de l'AMM était la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN pendant la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023. La retraite de l'AMM a commencé par la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN le 2 février 2023 et le 32e Conseil de coordination de l'ASEAN le 3 février 2023. Au cours de cette série de réunions, plusieurs ordres du jour ont été discutés, notamment les priorités de la présidence indonésienne et le suivi de la résultat des 40e et 41e sommets de l'ASEAN en 2022. La présidence indonésienne a soulevé le thème « L'ASEAN compte l'épicentre de la croissance ». L'Indonésie encouragera les efforts visant à renforcer la coopération de l'ASEAN en répondant à divers défis régionaux et mondiaux, tels que les rivalités géopolitiques, l'impact continu des pandémies et des catastrophes naturelles, les crises financières, les crises énergétiques et crises alimentaires. La stabilité et la paix dans la région Indo-Pacifique grâce à une approche de paradigme collaboratif. Les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique AOIP sont une initiative indonésienne adoptée par les dirigeants de l'ASEAN en juin 2019 et vise à maintenir la stabilité régionale par le partenariat, le dialogue et la coopération. Lors de l'ouverture de la 32e réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN, vendredi 3 février à Jakarta, la ministre Retno Marsudi a déclaré que la réunion du président indonésien à l'ASEAN s'est tenue au milieu de défis mondiaux qui ont un impact sur tous les pays, y compris l'Indo-région Pacifique. Un certain nombre de défis mentionnés par la ministre Retno comprenaient des crises géopolitiques, énergétiques, financières et écologiques. Retno Marsudi a également mentionné de fortes querelles d'États susceptibles de perturber la stabilité régionale. Retno Marsudi a également déclaré qu'au sein de l'ASEAN, il y a aussi le défi de la question de la Birmanie qui teste la crédibilité de l'ASEAN. Selon elle, l'Indonésie a donc lancé un certain nombre de programmes pour surmonter les défis existants.
Indonesia chairmanship aims to strengthen ASEAN capacity.
La présidence indonésienne vise à renforcer la capacité de l'ASEAN à être en mesure de relever les défis futurs, renforcer son unité pour mettre en œuvre la charte de l'ASEAN dans son intégralité et pour s'assurer que l'ASEAN peut naviguer dans la dynamique géopolitique de cette région. En plus de transmettre l'orientation de la présidence indonésienne au sein de l'ASEAN en 2023, à cette occasion, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également félicité le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste, Adalija Magno, pour sa présence aux réunions ministérielles du sommet de l'ASEAN à Jakarta. Selon elle, les pays de l'ASEAN saluent l'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN en tant qu'observateur et prépareront une feuille de route pour l'adhésion complète du Timor-Leste. Bon, cher Jetar, c'est tout. Mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Sur samedi, on va sur la rubrique magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la tradition de Murok Jerami. Namang est un village de centre rizicole qui produit du riz blanc et du riz brun, avec une superficie de plantation de 53 hectares d'un seul tenant. Ce village du centre de la régence de Bangka dans les îles de Bangka Belitung possède une sagesse locale liée à l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la tradition de Murok Jerami. Murok Jerami est une tradition de manger avec les habitants du village de Namang dans leur champ et leur rizière comme une forme de gratitude pour la récolte de riz. Cette tradition héréditaire est utilisée comme programme touristique annuel par le gouvernement de la région centrale de Bangka dans la province des îles de Bangka Belitung. Le 30 janvier, la fête traditionnelle de Murok Jerami s'est tenue dans le village de Namang, le centre de Bangka, dans les îles de Bangka Belitung, pour marquer la première récolte de riz sur 60 hectares de rizière. La tradition de Murok Jerami cette fois implique les peuples autochtones de la tribu Mengkano Orang Namang. La procession est commencée par des performances artistiques traditionnelles et des prières aux Tout-Puissants pour que les plantes prospèrent et puissent être récoltées ensemble. Sur les plants de riz, non seulement la récolte peut être utilisée, mais il y a aussi de la paille qui peut être retraitée pour la fertilité du sol. Après la représentation des divers arts traditionnels du village de Namang, la communauté s'est réunie pour prendre un repas ensemble, y compris les fonctionnaires du village et les gens ordinaires. La tradition de Murok Jerami continuera d'être préservée comme l'une des caractéristiques et des ressources culturelles du centre de Bangka. Selon la région du centre de Bangka, Al-Ghafri Rahman, le village de Namang en 2023 sera l'une des destinations touristiques centrales du centre de Bangka. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Sejak pertama kita bertemu, kau tebarkan rindu dalam kalbu, membuatku memikirkan kamu. Kau tiara, di senyummu ku temukan satu satunya kecantikan yang murni, semaikan cahaya bagi hati. Melayang jauh menjadi selalu ku rindu, oh.
kan selalu ada untuk kamu. Meski kau tak mempedulikanku, karena kaulah harapan sang surya.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien. Une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Ini Paspor Saya ». Ini paspor saya. Voici mon passeport. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Ini paspor saya. Ini paspor saya. Voici mon passeport. Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Ini paspor saya. Ini paspor saya. Voici mon passeport. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Ini. Ini. Voici. Passeport. 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 Saya. Saya. Mon. Ini paspor saya. Ini paspor saya. Voici mon passeport. Pinjam. Pinjam. Emporter. Pulpen. Pulpen. Stilo. Boleh pinjam pulpennya? Boleh pinjam pulpennya? Puis-je emprunter le stylo? Makanan ini. Makanan ini. Ce repas. Apa nama makanan ini? Apa nama makanan ini? Comment s'appelle ce repas? Saudara, dans la conversation, vous avez entendu la phrase "Ini paspor saya." Ini paspor saya. Voici est mon passeport. Dans cette expression, il y a le mot ini. Ini, voici, c'est. Voici est. Suivi des mots passeport saya. Passeport saya. Mon passeport. Comme quelque chose qui est montré. Pour montrer dans le but de donner quelque chose, vous pouvez utiliser le mot ini. Ini, voici, c'est. Suivi d'un mot ou d'une expression qui exprime quelque chose, qui est remis, par exemple, passeport, passeport, passeport. Chers amis, un autre exemple. En dehors de montrer dans le but de renoncer à quelque chose, le mot ini, ini, en français voici, c'est, est utilisé uniquement pour montrer quelque chose. Maintenant, écoutons la conversation suivante. Boleh pinjam pulpennya? Boleh pinjam pulpennya? En français, puis-je emprunter le stylo? Ini pulpennya. Ini pulpennya. Voici le stylo. Dans l'expression ini pulpennya, ini pulpennya, voici le stylo. Le mot ini, ini, voici c'est, est utilisé pour montrer et remettre le stylo. Apa nama makanan ini? Apa nama makanan ini? Quel est le nom de ce repas? Ini ketoprak. Ini ketoprak. C'est du ketoprak. Dans l'expression ini ketoprak, ini ketoprak, c'est du ketoprak. Le mot ini, ini, c'est, est utilisé pour indiquer que le repas est du ketoprak. En plus des passeports, l'identité des étrangers en Indonésie qui ont vécu pendant un an en Indonésie est un kitas. Kitas, c'est kitas. Kitas est l'acronyme de carte de permis de séjour limité. La période de validité doit être renouvelée chaque année. Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'Indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Darimu hari ini, apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta?
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Chers auditeurs, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous présente une chanson malaise intitulée « Lembaga Adat Melayu » chantée par Dato' Wan Gamaliardi. Cette chanson a été composée par Abdul Razak Al-Bentani. Cette chanson malaise raconte de l'institution coutumière malaise en tant que parapluie nationale qui protège la communauté et les organisations communautaires en terre malaise. Selon le créateur de cette chanson, l'institution traditionnelle malais est aussi un lieu où les anciennes coutumes, l'héritage malais et les conseils malais vivent en terre malaise, de sorte que les coutumes malaises sont protégées et maintenues. Bon, chers auditeurs, voici Lembaga Adat Melayu de Dato' Wan Gamaliardi. Bonne écoute!
Penguara dari lahuku dahulu kan ada. Hei Melayu, marilah bersatu menjadi tuan di negeri bertua. Hei Melayu, kini saatnya tiba untuk kita saling membahu. Lembaga adat Melayu menjaga marwah payung negeri.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.